Primo ciclo dei lunedì scientifici di quest'anno, la mente umana. Dico già subito il titolo del secondo ciclo che comincerà ad aprile, sarà dedicato alla scienza e il potere. Stiamo organizzandolo, vedremo durante lo svolgimento di questo ciclo di annunciare anche i relatori, i programmi, le conferenze nel dettaglio. Dovrei giustificare brevemente il tema, la mente umana. Il tempo me lo impedisce. Dirò solo questo. Abbiamo scelto questo tema, la mente, e non per esempio il cervello, non per spostare la problematica che, come tutti sanno, inerisce alla questione sul cervello, la conoscenza del cervello, ma per ampliare il più possibile il campo di problemi e di discussioni intorno a questo tema. In un articolo su Scientific American del 79, se non erro, veniva detto che il tema della mente è un tema semanticamente sbagliato perché induce problemi che sono problemi non scientifici e del cervello ci si dovrebbe occupare solamente come ci si occupa del rene, cioè studiando dal punto di vista fisiologico e basta. Noi abbiamo posto il titolo La mente umana perché vorremmo che si parlasse del cervello, cioè di quella parte dell'uomo in cui l'uomo pensa, ragiona e conosce, non solamente come si parla di un rene, ma con qualcosa di più. Certo, non spostando il problema, per questo il nostro ciclo, come hanno potuto ben vedere, è fatto da un punto di vista scientifico. Il professor Coppens, conosciuto da moltissimi di noi, che inizia questa sera il corso, parlerà della prospettiva paleontologica sulla mente e il cervello. Il 12 gennaio il professor Pizzamiglio, i fattori biologici nei sistemi conoscitivi, mente e cervello dal punto di vista neurologico, professor Rager, l'io mentale, e qui sarà appunto la questione del rapporto fra io mentale, io mentale, cervello, del professor Ancona, trattato dal professor Ancona, un tema che c'entra, qualcuno potrebbe dire che non è immediatamente pertinente, ma noi l'abbiamo inserito per questo specifico motivo, razionalità scientifica e non scientifica, cioè come funzionano i nostri processi di apprendimento. Verrà trattato dal professor Hübner e da ultimo un tema che si imponeva per i tempi che stiamo vivendo, il rapporto fra l'intelligenza dell'uomo e l'intelligenza artificiale. Sarà trattato dal professor Trotteur. Ciclo di 6 lezioni che si concluderà il 23 febbraio 1987. Noi abbiamo una piccola idea di raccogliere tutte queste conferenze e di pubblicarle come nostro solito, ma certamente sarà anche, vedremo di raccogliere in queste conferenze anche il contributo della discussione che ciascuno dei partecipanti potrà dare. Io ringrazio il professor Coppens di essere ancora fra noi questa sera e chiederei al professor Andrea Guerritore di introdurre l'incontro di oggi. Grazie.
Cosa facilissima, perché il professor Coppens è così conosciuto che direi che dovrebbe essere lui a presentare me ormai al San Carlo. Comunque noi lo ringraziamo ancora di cuore di essere qui stasera. Nous vous remercions beaucoup d'être avec nous encore une fois ce soir. Nous vous remercions aussi pour votre participation à l'organisation du cycle, pas seulement à ce que vous allez dire ce soir, à tout ce que vous faites pour les activités du Centre San Carlo. Come ha già detto il professor Grassi, ci sono delle ragioni diciamo che si sono ripetute per avere scelto questo tema della mente umana. Ora, quella di stasera è un punto fondamentale, cioè l'origine della mente. Io qui uso ancora il termine mente, anche se qualcheduno, come avete sentito, vorrebbe eliminare questo termine, ma è un termine che noi usiamo in partenza da un punto di vista empirico. Cioè noi prendiamo un dato di fatto, che esistono delle facoltà che si distinguono da quelle del corpo, e questo è riconosciuto ormai sempre più largamente da tutti, quindi noi lo prendiamo come punto di partenza per un ragionamento. È un ragionamento che naturalmente include il cervello, ma che non esclude questa serie, questa cascata di potenzialità e di attività dell'uomo, tra cui sottolineo le attività intenzionali e che pongono la base di quel grande problema, che è il problema della libertà e della responsabilità dell'uomo, che altrimenti verrebbe tagliato fuori. Se noi avessimo un rene al posto del cervello, diciamo, e non ci fosse altro che urina come prodotto, probabilmente non potremmo parlare di libertà, tantomeno di responsabilità, e cadrebbe molto della nostra convivenza umana, se non tutta, direi. Quindi a questo punto noi abbiamo questa tematica che raggiungerà forse il suo culmine nel momento in cui parleremo dell'io come momento di unificazione che tutti sperimentiamo, ma che è molto difficile definire, su cui è difficile costruire. La prospettiva paleontologica e la prospettiva dell'origine di tutto questo è una delle più interessanti. Naturalmente qui i dati sperimentali si sovrappongono a dati storici e anche a una serie di considerazioni di natura scientifica, e io non escludo a priori, per, diciamo pregiudizialmente, dal metodo scientifico anche un elemento soggettivo. So che questa affermazione è abbastanza delicata, ma la scienza oggettiva ci ha dato tanto, è quella che forma le basi della scienza sperimentale galileiana su cui lavoriamo tutti. Io sono biochimico personalmente, quindi diciamo anche nel biologico adoperiamo il metodo oggettivo. Però certamente vi è un dato soggettivo che è un dato di esperienza primaria, che quindi fa parte del reale, su cui anche un'indagine scientifica con metodi propri può andare avanti. E questo è qualcosa di nuovo che si sta instaurando. Quindi questa analisi condotta nella storia, nel tempo indietro, è quello che fa partire il ciclo di stasera. E su questo il professor Coppens ci dirà naturalmente delle cose estremamente interessanti. Non sto a ricordarvi i suoi dati, professore alla Sorbonne in Francia, ed è uno dei massimi studiosi di paleontologia contemporanei. L'abbiamo detto, mi scuso con quelli che frequentano il San Carlo abitualmente, ma è molto noto anche al di fuori degli ambienti scientifici, perché sua, insieme con un gruppo di altri ricercatori, la scoperta dello scheletro di Australopiteco meglio conservato, la famosa ragazza Lucy, no? Ecco, una cosa che viene ripetuta sempre, ma che pone un po' l'inizio di tutte le ricerche paleontologiche, o perlomeno uno dei punti iniziali delle ricerche paleontologiche di questi ultimi anni. Ringrazio ancora il professor Coppens di quello che ci dirà, e invito poi tutti naturalmente a voler porre delle domande per aprire una discussione che sarà una delle parti interessanti della serata. Merci ancora.
Prima di cominciare, coloro che usano le cuffie debbono sintonizzarsi sul canale 3. 3.
Bien, je suis extrêmement heureux de me retrouver ici ce soir. Je suis devenu presque un abonné, un habitué de votre centre. Je connais maintenant très bien la route entre Paris et Milan, et c'est un plaisir de revenir vous voir. J'ai aussi le plaisir, et je remercie beaucoup mes hôtes, d'ouvrir le cycle de conférences de cette année, et de l'ouvrir sur un sujet magnifique, puisqu'il s'agit du cerveau et de l'esprit. Autrement dit, de la plus magistrale des caractéristiques de l'homme. Alors, avant d'aborder l'étude du cerveau des hommes fossiles, je vais vous rappeler rapidement les grandes étapes de l'histoire de la famille des hominidés, de la famille des hommes. Rapidement, puisque j'ai déjà eu l'occasion ici même de vous raconter l'histoire de cette filiation, l'histoire de cette généalogie. Il y a 10 millions d'années, en Afrique équatoriale, vivaient de petits primates, de petits singes, dont la destinée allait être tout à fait privilégiée, puisqu'ils allaient être à l'origine à la fois des grands singes africains, gorilles et chimpanzés à l'ouest, et des hominidés, des gens de notre famille, à l'est de cette Afrique équatoriale. Et l'histoire des hominidés, l'histoire de notre famille, qui se développe donc sur une dizaine de millions d'années, environ 10 millions d'années, cette histoire va passer par deux grands stades, un stade pré-humain ou australopithèque et un stade humain. C'est une histoire simple, pré-humain, humain. Alors personnellement, contrairement à mes collègues américains, que vous avez peut-être entendu récemment, puisque mon ami Johansson m'a dit qu'il était venu 3 semaines en Italie. Il était ravi d'ailleurs, il était très content. Je pense que le stade pré-humain peut être subdivisé lui-même en 2 épisodes. Un épisode pré-australopithèque et un épisode australopithèque. Cette sous-famille des australopithécinés, des australopithèques en général, se caractérise par le redressement du corps. Ces australopithèques sont debout sur leurs pattes postérieures. Par la transformation de leurs dents et probablement par la transformation qualitative, la transformation de la structure de leur cerveau, mais pas quantitative. Et ces australopithèques debout ont donc les mains libres. Et ce sont probablement eux qui sont les premiers artisans, qui sont les premiers tailleurs de pierre. Et ces préhumains, ces premiers hominidés, naissent là et là seulement en Afrique orientale. Et puis, de certains d'entre eux, je dis bien de certains d'entre eux, naissent les hommes, les humains, dont les premières formes s'appellent Homo habilis, ont 3 millions d'années, et sont également, et ne sont qu'Est-Africains, que de l'Afrique de l'Est. Et puis Homo habilis, toujours debout, bien sûr, mais avec cette fois des dents à manger de tout, et un cerveau qui va se développer de manière quantitative. Homo habilis va changer son comportement, son mode de vie, parce qu'il va aussi manger de la viande. Et comme il va aussi manger de la viande, il va suivre le gibier et il va étendre son aire de distribution. Il va étendre sa répartition. Il va atteindre le reste de l'Afrique, l'Europe, l'Asie, vers 2 millions d'années. Et puis l'Amérique et l'Australie vers 50 000 ans. Et cet Homo habilis va passer ensuite par le stade Homo erectus dans l'Ancien Monde et Homo sapiens dans le monde entier. C'est bien clair. Autrement dit, à l'origine, en Afrique orientale, le pré-australopithèque, debout, mais qui grimpe encore aux arbres, par exemple Lucie, Et puis l'australopithèque qui taille les premiers outils avec un petit développement vers l'Afrique du Sud. Et puis à partir de ces certains de ces australopithèques, l'Homo habilis en Afrique orientale, s'étendant à l'Afrique du Sud, puis à tout l'Ancien Monde, et puis l'Homo erectus, l'inventeur du feu, l'inventeur des outils symétriques, et puis l'Homo sapiens, agrandi à la Terre entière. Donc voilà le schéma. Alors maintenant, le cerveau de ces gens-là. Alors le cerveau, c'est une histoire fantastique. Mettez-vous à la place du paléontologiste. Je vais vous raconter l'histoire d'un organe qui n'existe pas. Pour expliquer le cerveau, nous ne disposons que de trous. Rien d'autre que de trous. Il n'y a aucun cerveau fossilisé. Alors que peut-on faire avec un trou? On peut, premièrement, mesurer le volume du trou. Deuxièmement, faire le moulage du trou pour avoir sa forme extérieure. Et troisièmement, une partie de l'irrigation de l'encéphale est restée marquée sur la face interne de la boîte crânienne, si bien qu'on a accès à l'apport en sang, c'est-à-dire en oxygène, de l'organe disparu. Donc, volume, forme, irrigation, alimentation. Premièrement, volume. Vous pensez bien que on a mesuré chaque fois que l'on a pu, le volume que l'on appelle volume endocrânien de tous les crânes fossiles. C'est une approche facile. Il suffit de remplir le crâne de graines et puis de mesurer la quantité de graines qui est entrée dans le crâne. Ou bien on fait un moulage et on mesure le déplacement d'eau en immergeant le moulage. Le déplacement d'eau donne le volume. Mais il faut savoir que ce volume du trou n'est pas tout à fait le volume de l'encéphale. Parce que chez la forme vivante, entre l'encéphale et le crâne, se placent les méninges, pardon pour le vocabulaire, l'espace sous-arachnoïdien, un espace, des artères et des veines, du sang, du liquide céphalo-rachidien, une partie du trajet de 12 paires de nerfs crâniens, et ceci représente un pourcentage du volume sur lequel les auteurs ne sont pas d'accord. On pense que c'est de l'ordre de 5,7% chez le nouveau-né, peut-être 25% 25% chez l'enfant d'une année et peut-être autour de 20% à partir de 20 ans. Mais tout de même, le volume que l'on obtient, il faut donc le diminuer de 20% pour avoir le volume de l'encéphale. Enfin, c'est juste une réserve. Alors maintenant, lorsque l'on a affaire aux fossiles, quelles sont l'information que nous donnent ces fossiles? Chez les préhumains australopithèques, une capacité qui évolue très doucement. Autrement dit, l'encéphale ne se développe que de manière très lente. Chez le pré-australopithèque, c'est-à-dire Lucie, moins de 400 cm cubes parfois. Chez l'australopithèque, la forme africanus, la forme gracile, une moyenne établie sur 7 crânes, 442 cm cubes. Et chez les formes finales, que l'on appelle les formes robustes, une moyenne sur 3 crânes d'Australopithecus boisei, d'Australopithèque robuste d'Afrique orientale, 513 cm cubes. Australopithecus robustus d'Afrique du Sud, 530 cm cubes. Donc vous voyez, en ce qui concerne les Australopithèques, un petit peu moins de 400, un petit peu plus de 500. Une marge très étroite sur peut-être 7 ou 8 millions d'années, puisque les premiers australopithèques connus ont plus de 6 millions d'années. Maintenant, lorsque l'on passe à l'homme, à l'Homo habilis, au plus ancien des hommes, sur 5 crânes d'Homo habilis, on a déjà une moyenne de 638 cm cubes. Sur l'Homo erectus qui suit, mais l'Homo erectus recouvre toute une série d'hommes fossiles, les chiffres, les mesures vont de 800 cm cubes à 1200 cm cubes. 800 à 1200. Et ceci pour 20 crânes. La mesure est un petit peu meilleure. Et pour l'Homo sapiens, 1200 à 1400 en moyenne, avec une variation énorme qui va de 1000 cm cubes à plus de 2000, 1000 à 2002 peut-être, 2200. Avec une variation un peu plus fréquente de 1200 à 1800. Et avec un cas un petit peu particulier pour l'homme de Néandertal, qui est un vieil Homo sapiens, qui est un Homo sapiens un peu primitif, et qui a des chiffres élevés de 1550 cm cubes, 1625, 1690. On a dit souvent que il était curieux de voir cet homme qui précédait l'homme moderne ayant une capacité si forte. Mais c'est une capacité qui, après tout, se range au sein de la variation de l'âme moderne. Et comme on compare quelques dizaines de Néandertals à quelques millions d'Homo sapiens sapiens, la comparaison n'a pas beaucoup de sens. Alors on s'est posé des questions sur la signification de cet accroissement, de volume. Notamment lorsque l'on se trouve confronté à l'immense variabilité de la capacité actuelle de l'homme. Mais il me semble que dans une perspective historique, dans une perspective chronologique, paléontologique, cette augmentation considérable, puisque le volume est multiplié par 3, quelquefois par 4, cette augmentation doit avoir une signification, d'autant plus qu'on sait très bien qu'elle accompagne un développement culturel extraordinaire. Alors la signification, on se pose aussi des questions sur le contenu de ce volume, dont on n'a pas d'idée. Ce n'est pas la peine de spéculer, on ne sait pas si cette augmentation correspond à une augmentation du nombre des neurones ou une augmentation de la taille des neurones, ou une augmentation de la taille ou du nombre des neurites, ou des dendrites, vous savez, des prolongements du neurone, ou une augmentation de la quantité de névroglies, de liquide. En tout cas, cette augmentation ne peut que correspondre à une réorganisation de la structure. Bien, maintenant, la première question que l'on se pose en face de ce volume, c'est que signifie aussi ce volume en valeur absolue ? L'encéphale de l'homme est plus petit, par exemple, que l'encéphale d'une baleine ou que l'encéphale d'un éléphant. C'est comme ça, un éléphant, à peu près. J'en ai disséqué. Alors, la première relation que l'on essaye d'établir, c'est une relation entre le volume du cerveau ou le poids du cerveau et le poids du corps. Les premiers résultats sont satisfaisants. On constate par exemple que le cerveau représente un cent millième du poids du corps du brontosaure, le gros dinosaure. Un dix millième du poids du corps de la baleine, un six centième du poids du corps de l'éléphant, un deux centième du poids du corps du gorille, un quarante-cinquième du poids du corps de l'homme. Donc ça apparaît comme cohérent. Mais ce cerveau n'est que 1/40 du poids du corps de la souris, ça ne marche plus là, et 1/12 du poids du corps du ouistiti, le petit singe sud-américain. Alors il faut trouver autre chose. Et on a fait des quantités d'essais de rapports. On a pensé que comme la surface du corps était véritablement ce qui était en rapport avec l'extérieur, peut-être qu'il fallait mettre le volume du cerveau ou le poids du cerveau en rapport avec la surface du corps. Et alors on est arrivé, je pourrais vous détailler ça, on est arrivé à des formules très compliquées où entre toujours en considération un facteur, un fameux facteur que l'on appelle le coefficient de d'encéphalisation ou le coefficient de céphalisation. Alors en général, quand on introduit un coefficient, c'est qu'on n'est pas sûr de sa formule. Enfin, il y a à l'heure actuelle des travaux importants d'un chercheur de l'Université de Paris qui s'appelle Beauchot et d'un chercheur d'un Max Planck Institute de Francfort qui s'appelle Heinz Stefan. Et en déterminant ce facteur d'encéphalisation lié à la surface du corps et au poids du cerveau, ils arrivent à ce résultat extrêmement important, enfin, sur lequel on peut méditer, que les animaux diurnes, les animaux qui vivent le jour, sont plus encéphalisés que les nocturnes. Vous voyez, il faut se coucher de bonne heure. Que les animaux sociaux sont plus encéphalisés que les animaux solitaires. Tout ça, c'est en faveur de l'homme. Que les animaux omnivores, ceux qui mangent de tout, sont plus encéphalisés que les animaux folivores, qui mangent des feuilles. Et que les animaux terrestres sont plus encéphalisés que les animaux arboricoles. Alors l'homme qui est diurne, qui est social, qui est omnivore et qui est terrestre, avait toutes les conditions pour avoir une grosse tête. Alors, pour vous amuser, je ne copie pas sur un article, c'est un article de moi-même. Merci. Oui, pour vous amuser, sachez que on a fait beaucoup d'autres comparaisons. On a comparé, par exemple, la longueur de l'hypothalamus et la longueur de l'encéphale, le poids de la moelle épinière et le poids de l'encéphale, la capacité endocrânienne, le volume, et la surface du trou occipital, du foramen magnum. Enfin, on a essayé tous les rapports possibles pour essayer de pondérer, si je puis dire, pour un poids, pour essayer de mieux apprécier cette augmentation de volume qui est tout de même en partie fonction de l'augmentation de la taille aussi. Parce que entre pré-Australopithecus, entre Lucie et l'homme moderne, il y a une augmentation de la taille d'un mètre à 1,50 m, 60 m, et une augmentation consécutive du poids de l'hominidé. Bien. Alors il y a une autre approche qui est intéressante. Un Américain qui s'appelle Jeffrey Jerison, qui était en Italie l'été dernier, qui était avec Brunetto Chiarelli dans une académie d'été en Toscane, a pensé que dans l'encéphale, il y avait deux parties. Une partie qui se développait en fonction du développement du corps, et une autre partie qui était indépendante, qui se développait indépendamment du développement du corps, et dans laquelle il compte ce qu'il appelle les extra cells, extra neurones, des neurones supplémentaires, des neurones de luxe en quelque sorte. Alors, mesure des neurones de luxe, chez les panidés, chez les grands singes, 2 milliards 400 millions à 3 milliards 600 millions d'extra-neurones. Calcul pour l'australopithèque gracile, 3 milliards 9 à 4 milliards 5. Vous voyez, 2 milliards 4, 3 milliards 6 chez le singe, chez le grand singe. On dépasse déjà tout de suite dès l'australopithèque cette mesure, puisqu'on atteint 3 milliards 9 à 4 milliards 5 chez l'australopithèque gracile. $4,2 milliards chez l'Australopithèque robuste, $5,2 milliards à $5,4 milliards, un petit effort, chez l'Homo habilis, $5,7 milliards à $8,4 milliards chez l'Homo erectus, et $8,9 milliards d'extra-neurones chez l'Homo sapiens. Regardez. Alors évidemment, cette méthode vaut ce qu'elle vaut. C'est évidemment impossible à compter, notamment sur les encéphales fossiles, comme vous l'imaginez. Et d'autre part, on ne peut pas savoir quelle est la densité ni la taille des neurones, comme je vous le disais tout à l'heure, ni la complexité des neurites, des dendrites, etc., à l'intérieur de ces encéphales. Donc ce n'est qu'une méthode de plus pour essayer de comprendre, de quantifier, et de pondérer l'augmentation de ce volume. Donc en résumé, en ce qui concerne le numéro 1, c'est-à-dire le volume, on constate qu'il y a une augmentation considérable de ce volume, que cette augmentation n'a pas les mêmes vitesses, ce qui est intéressant. Elle est d'abord très lente et elle s'accélère au moment de l'Homo erectus, notamment. Et on constate que cette augmentation est en partie indépendante de l'augmentation de la taille et du poids du corps, et de la surface du corps. C'est ce qu'il faut retenir. Et on constate aussi que l'on n'a jamais trouvé de méthode rigoureuse pour estimer véritablement l'accroissement de ce volume relativement aux autres éléments du corps. Numéro 2, la forme de cet encéphale. Je crois que je vous ai dit ici l'année dernière que mon prédécesseur au Collège de France, le professeur Leroy Gourhan, qui est mort l'année dernière, avait déclaré « Il faut se résigner, nous avons commencé notre histoire par les pieds ». Alors c'est un peu vrai en ce sens que le redressement du corps est un élément essentiel dans notre histoire. C'est peut-être celui qui a déclenché toutes les autres transformations. Mais je ne suis quand même pas tout à fait d'accord, car lorsque l'on pratique le moulage de l'endocrâne de tous les hominidés fossiles, y compris les moulages des endocrânes des Australopithèques. Australopithecus et pré-Australopithecus. On est frappé, malgré la petite taille des plus anciens d'entre eux, de l'apparence du changement de la répartition des masses cérébrales par rapport à la répartition des masses cérébrales des grands singes. Je veux dire que lorsque vous comparez un endocrâne de chimpanzé ou de gorille et que vous le comparez à un endocrâne, au moulage endocrânien d'un australopithèque, même le plus ancien, vous constatez un certain nombre de différences. Et ces différences que je vais vous citer rapidement, qui sont nombreuses, sont déjà le signe d'une transformation qualitative, d'une transformation profonde de la structure du cerveau dès les premiers hominidés. Autrement dit, cette bifurcation d'il y a 7, 8, 10 millions d'années, elle est marquée très tôt, peut-être dès l'origine, par un changement locomoteur, un changement dans la locomotion. Les singes sont brachiataires, les hommes sont bipèdes, et un changement dans la structure de l'encéphale. Alors, par exemple, chez les australopithèques, même les plus anciens, la hauteur du cerveau au-dessus du cervelet est toujours plus grande que chez les grands singes. Les pôles antérieurs des lobes temporaux, de ces lobes-ci, sont de plus en plus grands. La région du lobe frontal est de plus en plus chargée de sillons, de plissements. La surface orbitaire du frontal, la surface antérieure du frontal, est coudée vers le bas. La troisième circonvolution frontale inférieure. Ça paraît du détail, mais elle est très importante. C'est celle qui porte l'air du langage. Le cap de Broca, à gauche. Eh bien, celle-là se développe de façon importante. Et elle se charge aussi de circonvolution. Et un sillon célèbre, fameux, qui se trouve là, à l'arrière du crâne, et qui s'appelle le sillon semi-lunaire, ou le sulcus lunatus. Eh bien, il est plus en arrière chez les grands singes, et plus en... Pardon, juste l'inverse. Plus en arrière chez les hominidés, et plus en avant chez les grands singes, parce que le développement des zones associatives, des zones des pensées d'association pariétale et temporale des hominidés, de l'homme, repousse vers l'arrière ce sillon et réduit d'autant la zone postérieure, la zone occipitale. Alors, vous voyez, tous ces points sont des détails, mais tous ces points signifient que sur le seul moulage endocrânien, qui donne au moins la forme qu'avait à peu près l'encéphale à l'origine, on constate suffisamment de différences pour être obligé d'admettre que la structure même de l'encéphale des premiers hominidés, des premiers membres de notre famille, était qualitativement différent de la structure de l'encéphale des grands singes. Sur une photographie, vous le verrez d'ailleurs sur la couverture de l'Humana Aventura. Il y a quelquefois des moulages endocraniens naturels, tout à fait miraculeux. Autrement dit, l'intérieur du crâne se remplit de sédiments avant que l'encéphale ne disparaisse complètement, avant que les méninges, quelquefois, ne disparaissent. Et ceci, remplissant la cavité endocrânienne, constitue donc un moulage, parce qu'évidemment il ne s'agit pas du cerveau, constitue un moulage naturel. Le moulage est réalisé par le sédiment, au lieu de l'être par nous-mêmes en laboratoire, par du plâtre ou du plastique. Et en général, ces moulages naturels sont beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillés que les moulages artificiels des laboratoires, peut-être parce qu'ils se forment, qu'ils se font, qu'ils se réalisent, avant que les enveloppes, les méninges, les nerfs, les vaisseaux dont je parlais tout à l'heure ne soient décomposés, n'aient disparu. Et le moulage endocrânien du petit crâne qui est sur la couverture de cette revue est superbe. C'est une pièce de sculpture. Il a été présenté d'ailleurs, l'original a été présenté à l'exposition Homo de Venise à la fin de l'année dernière. Donc, cette forme du moulage donne des informations sur les zones qui se développent préférentiellement aux autres. Et en l'occurrence, les zones qui se développent ont l'air d'être d'abord les zones latérales, pariétales et temporales, puis les zones frontales, plus tard les zones frontales. Et pour confirmer ceci, la troisième information et comme je vous le disais, celle de l'irrigation sanguine. Alors il faut dire que l'irrigation de l'encéphale se fait par une série de systèmes artério-veineux. Il y a d'abord un système externe, superficiel. Et puis il y en a un à l'intérieur des os, à l'intérieur des os, des ossements de la voûte du crâne, dans ce que l'on appelle le diploé, à l'intérieur de l'os. Et puis il y a un système méningé qui se trouve dans une des méninges que l'on appelle la dure mère. Et enfin, il y a un système profond à l'intérieur des méandres, des sillons, des lobes de l'encéphale. Pour le paléontologiste,
il n'y a pas de choix, le système externe a disparu, celui du diploé de l'os est rarement lisible, le système profond n'existe plus, et il reste imprimé, mais très joliment imprimé, sur la face interne de la boîte crânienne, le système méningé. Le système artério-veineux des vaisseaux des méninges. Alors ce système est en partie indépendant, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas faire un lien un peu trop facile et un peu trop direct entre son développement et le développement du réseau profond, par exemple. Mais il semble bien tout de même, quand on fait des dissections aujourd'hui, que ce système est en relation avec l'autre. C'est-à-dire que sa transformation peut avoir un sens. Alors cette transformation, elle est superbe. Parce qu'elle est d'abord quantitative. On voit se développer le réseau des vaisseaux sanguins. Et elle est en plus localisée. C'est-à-dire que l'on peut s'imaginer que les régions particulièrement actives ont un besoin d'oxygène plus grand qui entraîne une irrigation plus grande. C'est évidemment logique. Alors, résultat, chez les plus anciens des australopithèques, pré-australopithèques et australopithèques, l'irrigation est extrêmement simple. Il y a un vaisseau antérieur, un vaisseau postérieur. C'est ce que l'on appelle un dessin en lyre. Chez les australopithèques robustes, c'est-à-dire des australopithèques plus évolués, plus récents, il y a toujours cette branche antérieure, toujours cette branche postérieure, avec d'ailleurs des sinus sanguins des deux côtés. Mais il y a en plus une branche moyenne. Ce n'est plus une lyre, c'est trois branches cette fois. C'est d'ailleurs extrêmement intéressant parce que ça confirme la filiation dans le temps, la filiation chronologique entre l'australopithèque robuste et l'australopithèque gracile, dans le sens gracile-robuste, et non pas, comme certains auteurs l'ont dit, une simple question entre ces deux formes de différence sexuelle. Car si les graciles étaient femelles et les robustes mâles, les robustes, les mâles, auraient une irrigation du cerveau supérieure à l'irrigation des femelles, ce qui est absolument impensable. Comme disait une Anglaise du temps de Darwin, si c'est vrai, pourvu que ça ne se sache pas. Avec l'Homo habilis, alors ceci est extrêmement intéressant aussi, avec l'Homo habilis, les trois branches existent, mais elles sont beaucoup plus fournies, elles sont beaucoup plus importantes, et se crée pour la première fois un réseau, une maille de vaisseaux. C'est-à-dire qu'il y a des anastomoses, il y a des ponts entre les vaisseaux, et ceci préfigure déjà ce qui va exister chez l'homme actuel. Et le développement chez l'Homo habilis, le développement de cette irrigation, c'est-à-dire peut-être le secteur de plus grande activité est le secteur latéral, pas du tout la partie postérieure, pas encore la partie antérieure. C'est vraiment les zones associatives avant les zones de la mémoire. Chez l'Homo erectus, ce secteur-là se précise, se développe, le réseau devient encore plus dense. Chez l'homme de Néandertal, il est encore plus dense, mais il a un aspect un petit peu particulier qu'il n'est pas simple d'interpréter. Et chez l'homme moderne, le réseau est très dense, et les anastomoses, les ponts entre les vaisseaux sont vraiment multiples. Je vous montrerai des images, c'est tout à fait spectaculaire. Alors, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que lorsque l'on étudie ce même système chez les grands singes africains actuels, on se rend compte d'abord, ce qui est peut-être un peu troublant, que le réseau de vaisseaux qu'ils offrent est plus riche que celui des Australopithèques. Mais c'est un réseau contemporain de chimpanzés actuels comparé à un réseau d'hominidés de 3, 4, 5 millions d'années. Alors ceci explique sans doute cela. Mais ce qu'il est d'autre part très intéressant de noter, c'est que alors que le développement de ce système d'irrigation se fait dans le sens antérieur, vers les parties plutôt antérieures du pariétal et du temporal, puis du frontal des hommes, le meilleur développement se fait vers les régions postérieures du pariétal, du temporal, vers l'occipital et de l'occipital des grands singes africains. Même s'il y a des aires de recouvrement, même s'il y a des zones de l'encéphale qui sont autant demandeurs chez les uns que chez les autres, il y a tout de même deux tendances, je ne dis pas opposées, mais différentes de ce développement, et par suite deux tendances d'activité bien séparées de l'encéphale. Alors voilà les trois approches auxquelles peut parvenir le paléontologiste, mais je ne peux pas m'arrêter à ces approches du cerveau lui-même, de l'encéphale lui-même, pour expliquer le développement de l'esprit de l'homme. Comme vous imaginez, il y a beaucoup d'autres aspects qui ne relèvent pas directement de l'emplacement de l'encéphale et qui doivent être pris en considération. Il y a bien entendu le développement du crâne lui-même. On sait par l'embryologie que dans une certaine mesure, l'encéphale, le développement de l'encéphale induit, entraîne le développement de la boîte crânienne. Autrement dit, lorsque vous voyez la boîte crânienne se développer latéralement, antérieurement, supérieurement, ça a un sens. Le seul examen de la boîte crânienne elle-même a évidemment une signification. Et d'autre part, ces hominidés successifs sont accompagnés d'abord de petits outillages dont Jean Chavaillon vous a parlé l'année dernière, qui sont des éclats dont 5 à 6 % seulement se trouvent à avoir été retouchés. Et puis ensuite, vous avez un outillage plus diversifié, avec des galets aménagés de différentes manières, puis une trousse à outils encore plus importante, encore plus variée, correspondant donc à un éventail d'activités beaucoup plus large, avec l'apparition des pièces symétriques, et puis en même temps l'apparition de la maîtrise de la première énergie, le feu. Et puis ensuite on arrive, dès le paléolithique moyen, dès 50 à 100 000 ans, à des outillages extrêmement compliqués, tels que l'éclat levallois. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette extraordinaire pièce qu'est l'éclat levallois. Quand on voit un éclat levallois qui a 100 000 années, on voit un éclat très beau, qui paraît très élaboré, dont l'endroit sur lequel on a frappé a différentes facettes. Or, lorsque l'on retrouve les pièces qui ont précédé la sortie de cet éclat, et que l'on, en partant de l'éclat, on remonte à la pierre originelle, à la pierre d'origine, on s'aperçoit qu'il a fallu 14 coups de percuteurs placés à des endroits bien particuliers avant de sortir l'éclat levallois. Vous connaissez certainement les cocottes en papier. Ça marche pas, ça. Les avions, si vous voulez. Les petites pliures là du papier. Si je vous fais un petit objet comme ça en papier, vous me verrez plier le papier et vous ne saurez pas ce que je veux faire. Et puis plier encore et vous ne saurez toujours pas ce que je veux faire. Et puis plier, et au bout de 15 plis peut-être, vous verrez sortir un petit avion ou un petit objet. L'éclat levallois, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est une technique très élaborée. Il faut que l'artisan, s'il est sous vos yeux, tape 13 fois sans que vous sachiez ce qu'il va faire, et au 14e coup, il sort cet éclat que l'on trouve à travers pratiquement tout l'Ancien Monde. Alors ça représente déjà une succession de schèmes, dit-on, une succession de un processus mental extrêmement élaboré, mais on est dans des périodes très récentes, 100 000 ans, c'était ce matin. Alors je veux dire que lorsque l'on aborde l'histoire de l'encéphale et celle de l'esprit, il faut non seulement retourner à la source qu'est l'emplacement du cerveau lui-même et l'information sur le développement du système nerveux central, mais il faut aussi aller au comportement de cet homme et à son œuvre. Et cette œuvre, vous connaissez la suite, avec ce développement extraordinaire de l'art à partir d'une quarantaine de milliers d'années, et puis bien sûr le grand tournant révolutionnaire et révolutionnaire sur le plan économique qu'est la domestication et que sont la domestication et la culture il y a peut-être 12 000 années. Enfin, tous ces éléments sont aussi à prendre en considération. Je dois vous dire aussi pour terminer, qu'au-delà de l'étude de l'encéphale, il est aussi intéressant, mais ça a été peu fait, parce qu'il y a peu de fossiles, d'étudier la colonne vertébrale, la moelle épinière, et du coup l'activité motrice de ces âmes. Or, comme vous l'avez sans doute lu, mon ami kényan Richard Leakey, l'an dernier, c'était l'année d'avant d'ailleurs, en 84, a découvert un squelette presque complet, sans les extrémités, d'un Homo erectus, 1,5 million ans à peu près. Et cet Homo erectus, parmi tous les Homo erectus que l'on connaît en Asie, en Europe, en Afrique, était extraordinairement complet, et pour une fois, il y avait un certain nombre de vertèbres permettant une reconstitution de la colonne vertébrale et de la moelle épinière, de l'ouverture de la lumière neurale. Eh bien, cette moelle épinière est très petite. Son diamètre est d'un tiers celui de la moelle épinière actuelle. Ce qui signifie, enfin, quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé, c'est-à-dire une faculté motrice très réduite et qui est peut-être en rapport avec la très longue existence des outillages que l'on appelle acheuléens. Il y a donc ces tout petits outils au départ, et puis ces galets aménagés, puis ensuite ces bifaces, et puis il y a des bifaces, des bifaces, des bifaces, des bifaces, pendant 1,5 million d'années. Évidemment, le biface, à ce moment-là, s'améliore, sa section se réduit, s'affine, sa symétrie devient parfaite, et puis il est accompagné d'un éventail d'outils de plus en plus grand. Enfin, il y a quand même une espèce de maintien sur des années et des années et des milliers d'années de cet outil bifacial, de cet outil triangulaire que l'on appelle le coup de poing ou le biface, qui devait servir à tout, qui devait être une espèce de couteau suisse, je suppose. Et peut-être que l'étude de ce système nerveux peut éclairer en même temps l'évolution de cet outillage. Donc voilà cet encéphale, extrêmement important, puisqu'il va forcément de pair avec l'évolution extraordinaire de la culture et avec la transformation permanente de l'esprit humain qui perd petit à petit son instinct au profit de ce que l'on appelle l'acquis. Il est bien évident qu'au départ, cet esprit était instinctif, était inné. Petit à petit, il a acquis des éléments, il a fallu lui apprendre, et petit à petit, cette part d'apprentissage a grandi au point, à l'heure actuelle, de représenter 99% de notre esprit. La part instinctive est extrêmement réduite. Alors, il a bien fallu que le développement du système nerveux, le développement de l'outillage, le développement de l'acquis au détriment de l'inné se fasse de manière à peu près parallèle et en tout cas dans le même sens. Et ce sont ces trois éléments qu'il faut prendre en considération, en tout cas pour terminer, avant de vous montrer quelques images, je vous dirai que cet encéphale chez l'hominidé et dans tout le monde vivant, absolument unique dans son développement. C'est l'organe qui se développe de la façon la plus extraordinaire et la plus rapide, puisque en gros, depuis l'Australopithèque, c'est-à-dire où les premiers hommes, c'est-à-dire en 2 à 3 millions d'années, il se multiplie, il multiplie son volume par 4. Et aujourd'hui, nous sommes tous des monstres. Et il n'est pas impossible qu'il continue à croître en qualité d'utilisation, naturellement, chaque jour, et en volume peut-être. Merci. Je peux demander les diapositives si... Bien, je vous ai mis cette image pour confirmer un petit peu, expliquer un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ma manière de comprendre aujourd'hui l'évolution de la famille des hominidés. Pour moi, et c'est en ce sens que je diffère de l'opinion de mon ami Johansson, pour moi, Lucie est un cul-de-sac, de même que la lignée Australopithèque gracile, Australopithèque robuste en est un autre, et la lignée homme se branche sur celle dite Australopithèque, qui elle-même se branche très bas sur celle dite pré-Australopithèque. J'arrive à cette idée sur la base de l'étude, on dit aujourd'hui cladistique, des divers caractères de ces hominidés, et sur aussi une expérience de l'évolution d'autres groupes animaux qui procèdent exactement de la même manière. Je veux dire qu'on a rarement, pour ne pas dire jamais, la base des rameaux, tout simplement parce que à la base de chaque rameau, les populations ne sont pas très importantes et statistiquement ont donc moins de chances de se conserver. Ou peut-être aussi, comme l'a dit Gould, parce qu'il n'y a pas de base de rameaux, mais qu'on passe tout simplement d'un équilibre à un autre équilibre par un certain saut, par un certain quantum de transformation. En tout cas, cette conception de l'évolution est la mienne. Au lieu d'être un arbre phylétique, c'est une fleur. Et comme cette fleur est précisément celle que l'on appelle le myosotis, c'est comme ça qu'est la fleur de myosotis, et que le myosotis se dit « forget me not », je trouve ça formidable. La suivante. Suivante, next. Alors voilà le développement des hominidés. Voici un australopithèque, voici un homme. Cet australopithèque a 3 millions d'années, cet homme est contemporain. Regardez la diminution de la face qui, au lieu d'être projetée et droite, qui, au lieu d'être longue et courte, et en même temps, regardez le développement extraordinaire de l'encéphale. Alors évidemment, il y a une contraction ici de 3 millions d'années. Suivante. Une reconstitution du crâne de Lucie, faite d'ailleurs par Johansson quand il était à Cleveland, qui vous montre le très petit encéphale, très pincé. Il y a derrière les orbites ce qu'on appelle une constriction post-orbitaire. et il y a dans cet encéphale moins de 400 cm cubes. Suivant. Voici un crâne que j'ai découvert au Tchad et qui est probablement un Homo erectus. Et puis le petit crâne de Tong, le premier petit australopithèque découvert et que vous allez voir de profil tout à l'heure, dont la face est conservée en os, alors que l'arrière-crâne est un moulage endocrânien naturel. Suivant. Regardez si c'est beau. Toute cette partie représente un remplissage de l'endocrâne par des sédiments. Le crâne osseux est parti et il reste le remplissage en sédiments faisant une sorte de moulage endocrânien naturel. Et ce qui est très amusant, c'est que la bipédie, le fait que cet australopithèque soit debout, et c'est la première fois que ça arrive dans toute l'histoire des primates, est vérifié bien sûr par l'allure du crâne, la position du trou occipital, l'allure des os du squelette, du bassin, de la jambe, du pied, etc. Mais est vérifié aussi par le fait que les côtés de ce moulage montrent les différentes circonvolutions, les différents plissements, alors que le dessus, ici, le sommet du crâne est lisse. Et le sommet du crâne est lisse parce que le crâne appuie sur l'encéphale, en l'occurrence sur le moulage, et efface les circonvolutions sur le haut de la tête. C'est une espèce de confirmation de la bipédie de manière tout à fait originale. Suivant. Suivant. Un autre australopithèque que je vous ai montré à d'autres fois ici, c'est une forme robuste, c'est une forme finale de du développement du phylum des australopithèques, avec un développement particulièrement important de la face correspondant à un développement de la musculature qui fait fonctionner les mâchoires. Suivante. C'est le dernier des australopithèques. Suivante.
La prochaine.
Le profil du précédent, il y a dans cette encéphale un petit peu plus de 500 centimètres cubes. Un peu plus de 513, je crois, chez cette forme d'Afrique orientale. C'est-à-dire que l'encéphale chez les australopithèques n'évolue pas, n'augmente pas quantitativement beaucoup. Suivant. Voici, au contraire, l'Homo habilis. Vous avez vu qu'en moyenne, il atteint tout de suite 638 cm cubes. Et vous voyez immédiatement sur ce crâne un développement dans la partie frontale, un développement dans la partie latérale, comme une poussée vers l'extérieur, et un développement vers la partie du sommet, vers le vertex. Suivante. Voici cette fois les Homo erectus. Ce crâne est un crâne de Chine, et celui-ci atteint tout de suite un millier de centimètres cubes. Il s'agit de l'homme de Lanxian. Suivante. Voici une calotte d'homme de Pékin, l'Homo erectus de Choukoutien. Ici, il s'agit du bourrelet au-dessus des orbites. Donc voilà la calotte crânienne. Vous voyez qu'il y a beaucoup de place dans cette calotte. Et la capacité là monte jusqu'à 1200 cm3. Suivant. Voici des formes d'Homo erectus d'Europe. À droite, l'homme de Totavel, trouvé par Henri de Lumley dans les Pyrénées-Orientales. Et à gauche, l'homme de Stanheim en Allemagne. Suivant. Je vous raconterai peut-être tout à l'heure une histoire à propos de Totavel. Voici deux profils de ces crânes d'Homo erectus, et en particulier en bas, au-dessus, c'est Biache Saint-Vast. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est un crâne découvert dans le nord de la France. Et en bas, c'est Stanheim, que vous avez vu de face tout à l'heure. Vous voyez que cette fois, à part un crâne un peu allongé, la capacité est moderne. C'est un crâne de 200 000 ans. Suivant. Deux faces d'âme de Néandertal, un Italien, Sacco Pastore, près de Rome, et un Français, Laferassi. Suivant. Deux profils de Néandertaliens, Laferassi que vous avez vu tout à l'heure, en bas, et en haut, c'est le profil d'un crâne de Yougoslavie, Krapina. Les hommes de Néandertal, comme je vous l'ai dit, ont un crâne très dolichocéphale, c'est-à-dire très allongé, et ça leur donne une capacité très importante, puisqu'ils atteignent 1500, 1600, parfois 1700 cm3. Suivant. Et l'homme de Cro-Magnon, que je vous ai présenté souvent, et qui est donc un des types d'hommes modernes existants au monde, puisque cet homme a 35 000 ans, et il y a 35 000 ans, il y avait des hommes absolument partout dans le monde. Suivant. Alors voilà ce fameux réseau méninger, le plus ancien des australopithèques, avec une petite branche frontale, une branche antérieure importante, une branche postérieure importante, un sinus qu'on appelle le sinus pétrosquameux, mais peu importe. Et en tout cas, ce dessin en lyre des plus anciens australopithèques. Vous voyez que l'irrigation est très modeste. Suivante. Vous voyez que ça s'arrange, voilà, dans l'autre sens, malheureusement. L'australopithèque robuste, avec toujours une petite branche frontale, une branche antérieure, une branche postérieure, toujours le même sinus sanguin, pétrosquameux, allant au sinus latéral, mais il y a cette fois une branche moyenne importante. Suivant. Et voici l'Homo habilis. Regardez le premier homme. Ce n'est pas encore très, très riche, mais tout de même, il y a la branche antérieure, la branche postérieure, la branche moyenne, et puis ce que j'appelle des anastomoses, qui sont les ponts jetés d'un vaisseau à l'autre, c'est-à-dire qu'un réseau est en train de s'installer. Suivant. Vous voyez que ça s'améliore. Voici l'exemple d'un Homo erectus, où cette fois la maille se dessine et s'organise. Suivant. Et voici un exemple d'une forme encore plus récente, où cette fois on a affaire à un véritable réseau, une véritable maille extrêmement dense, et il y a encore plus dense que cela. Enfin, vous voyez que c'est très spectaculaire. Suivant. Suivante. Je crois que c'est la dernière. Voilà. Merci beaucoup de votre gentillesse et de votre attention.
Ringraziamo ancora il professor Coppens, che ha continuato a portarci notizie di prima mano e di grandissimo valore su studi che anche personalmente ha contribuito a costruire. Adesso si apre la discussione. Credo che sia possibile parlare dal posto. Sì, qui, ecco.
Sono dei microfoni ai lati, chi vuole intervenire segnala la sua intenzione, gli verranno detti.
Bon, avant que vous n'interveniez, pour vous laisser réfléchir à vos questions, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas sérieuse, mais qui est intéressante et qui est devenue historique. J'ai fait à Londres une exposition avec Richard Leakey et David Pilbeam. Tous les trois, Leakey, Pilbeam et moi-même. Et cette exposition qui s'appelle The Human Story et qui circule, elle est en ce moment à Brême, a été inaugurée en novembre l'année dernière par la reine d'Angleterre, Sa Majesté, The Queen Elizabeth II. Alors la reine fait son discours, visite l'exposition, et après l'exposition, nous retrouve dans un petit, on dirait cocktail en France, à Londres c'était un thé, et j'avais été présenté avant l'exposition, mais Richard Leakey, très aimablement, me fait à nouveau venir près de la reine, et lui dit, Majesté, Yves Coppin, c'est un ami de ma famille depuis très longtemps. Il a fouillé sous l'autorité de mon père et il a toujours beaucoup facilité les rapports internationaux, les relations notamment entre les chercheurs britanniques et les chercheurs français. Alors la reine me dit quelque chose d'aimable que j'ai oublié. Et puis je pense tout d'un coup au crâne de Tottavel que vous avez vu, et qui était dans l'exposition, mais pas sous la forme qu'il a, mais sous une forme complétée, parce que Henri de Lumley a trouvé la face, et puis il a trouvé un pariétal. Alors il a fait, comme on fait toujours, il a fait le symétrique, il a fait l'autre pariétal, et puis il a mis des temporaux qui venaient de Java, qui allait à peu près bien, et puis un occipital qui vient de Swanscombe, d'Angleterre, parce que les temporaux d'Indonésie et l'occipital d'Angleterre sont à peu près de la même époque, et aujourd'hui, le crâne a une allure complète. Alors, j'avais dit à Richard Leakey, je ferai rire ta reine, et il m'a dit, n'importe quelle reine, oui, mais pas la mienne. Alors je saute sur cette occasion et je dis, oh majesté, il y a le symbole de cette collaboration, de cette coopération dans l'exposition même. Alors elle est alertée, elle me dit, really? Je dis oui, avez-vous vu le crâne de Tottavel? Elle ne devait plus s'en souvenir, mais elle m'a dit yes. Alors j'ai dit, ce crâne, il est français par devant, mais il est anglais par derrière. Elle a été magnifique. Elle n'a pas éclaté de rire, parce que c'est une reine. Elle a souri, et elle m'a dit, « Does it fit ? » Est-ce que ça colle ? Alors je lui ai dit, « Almost. » Voilà mon histoire. J'ai fait rire la reine d'Angleterre. Alors, la première question.
C'è un microfono, per piacere, sì. Sì, qui sì, ma non so in fondo. arriva
io
in fondo.
Io volevo fare una domanda. Come si presume che Lucy trascorresse la sua giornata? Grosso modo.
Ah, c'est une très jolie question et très, très poétique. Alors Lucie vivait dans un milieu de savane, à la limite de petits îlots forestiers et de forêts-galeries le long de rivières. Elle était petite, elle marchait sur ses pattes postérieures, en permanence, elle était debout, mais elle avait dans les articulations du bras, les articulations de la jambe, la forme des phalanges, une évidente aptitude à grimper aux arbres. D'autre part, ses dents révélaient une alimentation essentiellement faite de végétaux.